Chapitre 3. Dans un autre monde, mais sous l'ombre du même cas-tête, Jake Chambers faisait le rêve le plus réaliste de sa vie. Il marchait à travers les ruines enchevêtrées d'une antique forêt, une zone morte faite d'arbres abattus et de buissons épineux qui lui griffaient les chevilles et tentaient de lui arracher ses tennis. Il arriva devant une petite haie de jeunes arbres. Des zones, pensa-t-il, ou peut-être des hêtres. C'était un citadin, il n'y connaissait pas grand-chose aux arbres. Il savait seulement que certains avaient des feuilles et d'autres des aiguilles. Et découvrit un sentier. Il s'y avança en pressant le pas. Un peu plus loin se trouvait une sorte de clairière. Il fit halte avant d'y arriver lorsqu'il aperçut sur sa droite une sorte de borne. Il sortit du sentier pour l'examiner. Il y avait des lettres gravées dans la pierre, mais elles étaient si érodées qu'il ne put les déchiffrer. Finalement, il ferma les yeux. Jamais il n'avait agi de la sorte dans un rêve. Et les caressa du bout des doigts, comme un aveugle déchiffrant un message en braille. Les lettres se dessinèrent sur l'écran noir de ses paupières, composant une phrase qui lui apparut auréolée d'une lumière bleue. « Voyageur, ici commence l'entre-deux-mondes. » Endormi dans son lit, Jake ramena ses genoux contre sa poitrine. La main qui tenait la clé était glissée sous l'oreiller et ses doigts raffermirent leur étreinte sur le métal. « L'entre-deux-mondes, » pensa-t-il. « Évidemment. Saint-Louis, Topeka, le Pays d'Oz, le parc d'attractions et Charlie le Chouchou. » Il ouvrit les yeux dans son rêve et continua sa route. Le sol de la clairière était de vieil asphalte craquelé. Un cercle jaune pâle était peint en son milieu. Jake se rendit compte que c'était un terrain de basket avant même d'avoir aperçu le jeune garçon qui se tenait à l'autre bout, sur la ligne des coups francs, et lançait dans le panier un vieux ballon Wilson. Le ballon entrait dans le panier sans coup férir à chaque lancée. Le panier sans filet était suspendu à un édifice qui ressemblait à une bouche de métro fermée pour la nuit. Sa porte close était zébrée de rayures jaunes et noires. De derrière elle, ou d'en dessous, émanait la vibration régulière d'une puissante machine. Pour une raison indéterminée, ce bruit semblait troublant, terrifiant. « Ne marche pas sur les robots !» dit le jeune basketteur sans se retourner. « Je crois qu'ils sont tous morts, mais à ta place, je ne prendrai pas de risque. » Jake regarda autour de lui et vit plusieurs bestioles mécaniques gisant sur le sol. L'une d'elles ressemblait à un rat, une autre à une chauve-souris. Tout près de ses pieds se trouvait un serpent mécanique coupé en deux. « Est-ce que tu es moi ?» demanda Jake en faisant un pas vers le joueur de basket, mais il sut tout de suite qu'il se trompait. L'autre était plus grand que lui et devait avoir au moins 13 ans. Ses cheveux étaient plus sombres, et lorsqu'il se retourna, Jake vit qu'il avait les yeux noisettes. Les siens étaient bleus. « À ton avis ?» demanda l'inconnu en lui lançant le ballon. « Non, bien sûr que non, » dit Jake. Il semblait quémander une excuse. « Mais ça fait environ 3 semaines que je suis coupé en deux. » Il fit rebondir la balle et la lança. Elle décrivit une superbe parabole et retomba en silence dans le panier. Il était ravi, mais il avait également un peu peur de ce que le jeune inconnu allait lui dire. « Je sais, » dit le garçon. Ça n'a pas été rose pour toi, pas vrai ? Il portait un short aux couleurs passées et un t-shirt jaune proclamant « Il se passe toujours quelque chose dans l'entre-deux-mondes. » Il avait noué un bandana vert autour de son crâne pour empêcher ses cheveux de retomber sur ses yeux. Et ça ne va pas s'arranger de sitôt, crois-moi. « Quel est cet endroit ? » demanda Jake. « Et qui es-tu ? » « C'est le portail de l'ours, mais c'est aussi Brooklyn. » Cela semblait absurde et pourtant c'était censé. « C'est toujours comme ça que ça se passe dans les rêves, » se dit Jake. « Mais cela ne ressemblait pas vraiment à un rêve. » « Quant à moi, je n'ai pas un rôle important dans cette histoire, » reprit le jeune garçon. Le ballon passa par-dessus son épaule, s'éleva dans l'air et retomba en plein dans le panier. Je dois te guider, c'est tout. Je dois te conduire là où tu dois aller, te montrer ce que tu dois voir, mais tu devras être prudent parce que je ne te reconnaîtrai pas. Et Henry n'aime pas les inconnus. Il le rend nerveux. Quand il est nerveux, il devient parfois méchant. Et il est plus grand que toi. Qui est Henry ? Demanda Jake. Aucune importance. Ne te fais pas remarquer, c'est tout. Tu n'auras qu'à glander dans le coin, puis nous suivre. Et quand on sera parti, l'adolescent se tourna vers Jake. La pitié et la peur se lisaient dans ses yeux. Jake s'aperçut soudain que son interlocuteur commençait à disparaître. Il apercevait les zébrures jaunes et noires de la boîte à travers son t-shirt jaune. « Comment te retrouverai-je ? » Jake était terrifié à l'idée que le jeune garçon puisse s'évanouir avant de lui avoir dit tout ce qu'il avait besoin d'entendre. « Pas de problème !» La voix de l'adolescent avait pris une résonance bizarre. « Prends le métro jusqu'à Co-op City. Tu me retrouveras. « Je n'y arriverai jamais !» s'exclama Jake. « Co-op City est gigantesque. Il y a bien 100 000 personnes dans ce quartier. » L'adolescent n'était plus qu'une silhouette aux teintes laiteuses. Seuls ses yeux noisettes étaient encore là, ainsi que le sourire du chat de Chester dans Alice. Il regardait Jake avec anxiété et compassion. « Pas de problème, je te dis !» « Tu as trouvé la clé et la rose, pas vrai ? Tu me trouveras de la même façon. Cet après-midi, Jake, vers 3 heures, ça devrait aller. Tu devras être prudent et tu devras être rapide. » Il marqua une pause, spectre aux pieds transparents près desquels était posé un vieux ballon de basket. « Il faut que j'y aille maintenant, mais ça m'a fait plaisir de te voir. » T'as l'air d'un garçon sympa et ça ne m'étonne pas qu'il t'aime tant. Mais il y a du danger. Sois prudent et sois rapide. Attends ! Hurla Jake. Et il se mit à courir vers le garçon qui disparaissait. Son pied buta sur un robot fracassé qui ressemblait à un tracteur jouet. Il trébucha et tomba sur les genoux, déchirant son pantalon. Il ignora la morsure de la douleur.
Attends ! Tu dois me dire ce que tout ça signifie. Tu dois me dire pourquoi c'est à moi que ça arrive.
C'est à cause du rayon, dit le garçon qui était réduit à une paire d'yeux flottant dans l'air. Et à cause de la tour. En fin de compte, toutes choses servent la tour, même le rayon. Tu croyais que c'était pas ton cas?
Jake agita les bras et se releva avec maladresse.
« Est-ce que je vais le retrouver ? Est-ce que je vais retrouver le pistolero ?»«
Je ne sais pas, » répondit le garçon. Sa voix semblait venir d'un point situé à 1 million de kilomètres de là. « Je sais seulement que tu dois essayer et que tu n'as pas le choix. »
L'adolescent avait disparu. Le terrain de basket était vide. On n'entendait que le léger bourdonnement des machines, un bruit que Jake n'aimait guère. Il y avait quelque chose qui clochait dans ce bruit, et il se dit que ce qui affectait les machines devait affecter la rose, ou vice-versa. Tout était lié. Il ramassa le vieux ballon et le lança. Il retomba en plein dans le panier et disparut.
« Un fleuve !» soupira la voix de l'adolescent. On aurait dit une légère brise. Elle venait de partout et de nulle part.
« La réponse est un fleuve !»